Nous sommes le vendredi 9 juillet. Bonjour à tous, bienvenue. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, l'arrivée de la flamme olympique à Tokyo, à 15 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, mais une arrivée sans spectateurs et sous la pluie, avec des tribunes qui resteront désespérément vides. Nous serons à Tokyo dès le début du journal. Les autres titres, Agnès.
Le variant Delta continue d'affoler les compteurs de l'épidémie en France, alors que les discothèques rouvrent ce soir. Faut-il partir en Espagne ou au Portugal cet été? La valse hésitation des touristes français. Les soldats américains auront tous quitté l'Afghanistan avant la fin du mois d'août. Et puis on ne se lasse pas du bonheur des enfants découvrant la mer. Une fois de plus, le Secours populaire offre un moment enchanté aux oubliés des vacances.
Et les invités de France Inter ce matin à 7h50, c'est le musicien Woodkid. Il viendra nous parler d'une création inédite. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. À 8h20, le ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran, il vient évoquer évidemment la crise sanitaire, la reprise des contaminations, la campagne vaccinale. Vos questions dès maintenant au standard 01 45 24 7000.
France Inter.
L'image de la nuit, c'est donc l'arrivée de la flamme olympique à Tokyo, dans une ville placée sous état d'urgence, à proximité d'un stade vide, avec un groupe de trompettistes réfugiés sous un kiosque pour s'abriter de la bruine. À exactement 2 semaines de la cérémonie d'ouverture des Jeux, l'ambiance n'est pas exactement celle à laquelle on pourrait s'attendre. Il faut dire que l'annonce hier soir par les autorités japonaises d'interdire le public dans les tribunes durant toute la durée des compétitions a jeté un froid. Bonjour Karine Nishimura.
Bonjour à tous.
Le relais de la flamme olympique, parti de Fukushima, était censé susciter l'enthousiasme. On est visiblement bien loin du compte.
Et oui, une cérémonie hélas bien triste ce matin sur une petite scène installée dans un parc avec 2 représentants de l'arrondissement visité. Pas de public, quelques caméras de télévision et pour nous, journalistes, une simple retransmission en ligne. La musique que vous entendez derrière moi pourrait faire illusion, mais dans les faits, les coureurs se sont contentés de passer la flamme de torche en torche. C'est malheureux car c'est représentatif de ce qu'a été ce relais et de ce que risque d'être ces JO sans public. Alors bien sûr, du point de vue des experts, le huis clos va permettre d'éviter des infections dans les stades et ailleurs. Mais le corps médical n'est pas non plus totalement rassuré, comme l'explique le médecin spécialiste des infections Masahiro Kami.
Je pense qu'on n'évitera pas les contaminations dans le village olympique. Tenant compte du risque de contamination par aérosol, ceux qui ne sont pas vaccinés, les cuisiniers, les personnes qui font le ménage, les livreurs, risquent de transmettre le virus.
Le pire dans cette affaire est qu'il reste encore 15 jours avant le début et que tant que ces JO ne seront pas finis, l'angoisse va continuer selon le politologue Koichi Nakano.
Une annulation en plein milieu reste une possibilité qu'on ne peut pas exclure.
Ce serait vraiment le scénario catastrophe.
Merci Karine Nishimura à Tokyo ce matin pour France Inter. Les 11 000 athlètes attendus vont donc devoir concourir dans des stades et des salles qui sonneront creux. Pas facile, estime le cycliste Guillaume Martin, actuellement sur le Tour de France et qui représente l'une des chances de médaille française à ces Jeux.
C'est évidemment dommage et triste, mais je pense un peu imposé par le contexte. Le plus important, c'est que les Jeux aient lieu. Alors évidemment, quand on pense aux Jeux avec le Tour de France, on pense... Public, ambiance, supporters et voilà, ça c'était ça les Jeux que je voyais quand j'étais petit, c'était la cérémonie d'ouverture avec cette foule dans les stades et du monde sur toutes les épreuves. Là ce sera certainement un peu étrange comme atmosphère, mais néanmoins les Jeux auront lieu et je suis content d'y être.
Guillaume Martin avec Fanny Le Chevestrier. Le public, lui, est bien présent sur la route du Tour de France. 13e étape aujourd'hui, 219 km entre Nîmes et Carcassonne.
À 7h04, cette question, Agnès, une 3e dose de vaccin anti-Covid sera-t-elle nécessaire à terme?
Une question qui agite la communauté scientifique. Le laboratoire Pfizer-BioNTech va demander l'autorisation d'une 3e dose contre le Covid aux États-Unis et à l'Europe. Une 3e dose que les instances sanitaires américaines ne jugent pas nécessaire pour l'instant. La propagation rapide du variant Delta inquiète les autorités française. Un conseil de défense sanitaire aura lieu lundi matin, car le nombre de contaminations continue de progresser. Véronique Julia.
C'est un signe dans un grand hôpital parisien. Hier, et sans doute dans quelques autres, il y avait réunion de crise. Ça faisait quelques semaines qu'on s'en était passé. Rien à voir, bien sûr, avec les moments les plus tendus de cette année. Mais mine de rien, on se renseigne, on anticipe. Le nombre de cas a augmenté en France de 50% en une semaine. À ce rythme, nous dit un épidémiologiste, si on estime tourner autour de 3000 cas par jour en ce moment, on sera à 6000 cas dans 15 jours, à 12000 cas dans un mois, et à près de 30000 cas fin août. Alors oui, même si ça monte haut, on est monté plus haut déjà. déjà et sans vaccin. Un niveau de contamination équivalent. Il y aura moins de morts et moins d'hospitalisés qu'il y a un an. Les chiffres en Grande-Bretagne ou en Israël en attestent. Mais un virus qui circule, c'est un virus qui continue de muter, sans qu'on sache à quoi vont ressembler d'ailleurs les prochains mutants. Et un virus plus contagieux, c'est un virus qui, pour être maîtrisé, nécessite une immunité collective plus importante. Ainsi, quand le R0 est de 3, c'est-à-dire qu'un malade contamine 3 personnes, il faut une immunité d'au moins 66% pour contenir l'épidémie. Quand le R0 est à 6, il faut plus de 80%.
Et pour évoquer la stratégie de la France, rappelons qu'Olivier Véran, le ministre de la Santé, sera l'invité du grand entretien tout à l'heure à 8h20. Dans ce contexte, la réouverture des boîtes de nuit ce soir inquiète les médecins. Fermés depuis 16 mois, les discothèques seront soumises à un protocole strict, une jauge à 75% et un pass sanitaire obligatoire. Le port du masque est recommandé, mais pas obligatoire. Pas recommandé cette fois les vacances en Espagne et au Portugal. Déclaration hier matin du secrétaire d'État aux affaires européennes Clément Beaune, qui a provoqué un tollé du côté des autorités espagnole. Une annonce qui a pris également de court les vacanciers en partance pour Madrid ou Barcelone et que Margot Kefelec a rencontré à Orly.
Devant les guichets d'enregistrement pour l'Espagne, il y a de longues files d'attente. Parmi les voyageurs, il y a Charlotte. Masque sur le nez, chapeau de paille sur la valise. Elle part à Mallorca malgré tout.
On prend nos responsabilités, mais c'est vrai que changer des plans à 24 heures près, c'est impossible, quoi, en fait. Donc soit ils nous remboursent les billets et nos vacances, non mais c'est vrai honnêtement, et on n'y va pas et on change de destination, soit bah, malheureusement on peut pas.
Pas question de renoncer à ces vacances donc, mais les touristes ont quand même conscience des risques du variant Delta. Dany part pour 4 jours de fête à Ibiza.
On va quand même faire plus attention quand même, on sait qu'il y a ce variant qui existe, on sait qu'on est quand même un peu couvert avec le vaccin. Je sais qu'en Espagne ils sont très à cheval sur le masque, donc oui j'ai plutôt confiance.
Il y a aussi ceux qui rentrent de voyage, comme Maria. La madrilène ne comprend pas bien l'inquiétude des autorités françaises sur la situation sanitaire en Espagne.
À Madrid, tout le monde porte un masque. La jauge de personnes dans les transports en commun est limitée. Ça m'a choqué de voir autant de personnes sans masque à Paris. Pour moi, Madrid est plus sûr que Paris.
Éviter l'Espagne et le Portugal pour ses vacances d'été, c'est pour l'instant une recommandation de la part du secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Mais de nouvelles mesures pourraient être prises.
Reportage de Margot Kefelec. Et dans l'avion, y aura-t-il un ou deux pilotes? Y aura-t-il même un pilote dans l'avion? Une compagnie aérienne asiatique a annoncé il y a quelques jours son intention de lancer dans les prochaines années un vol long courrier avec un seul pilote, ce qui poserait des problèmes de sécurité. Le syndicat national des pilotes de ligne a d'ailleurs vivement réagi. Alors, prendra-t-on un jour un avion sans pilote? Philippe Lefebvre nous répond.
Eh bien, nous n'en sommes pas encore là, car même si Cathay Pacific, la compagnie de Hong Kong, laisse entendre qu'en 2025, un de ses Airbus A350 long courrier volera avec un seul pilote, la réalité sera en fait un peu différente. Il y aura toujours deux pilotes pour les phases de décollage et d'atterrissage, et ensuite, au moment où l'avion aura atteint son altitude de croisière, eh bien, un seul pilote restera aux commandes, et le second ira se reposer et pourra relayer son collègue durant le vol. Et pour ce qui est de l'avion totalement autonome, le projet Atoll d'Airbus, eh bien ça a fonctionné durant 6 vols d'essai, là encore d'un A350. Les pilotes ont juste eu à positionner l'avion sur la piste, à lancer la manette des gaz et ensuite ce sont les calculateurs et les caméras embarquées qui ont fait le reste. Alors chez Airbus, on reste très prudent, affirmant que la sécurité et l'acceptation sociale étant des priorités absolues de l'avionneur, celui-ci n'ira pas plus loin au niveau de l'autonomie de vol. Et la compagnie allemande Lufthansa, associée au projet, a d'ailleurs clairement annoncé qu'elle n'envisageait pas d'utiliser le système développé par Airbus.
L'acquittement en appel pour les deux pilotes de l'affaire Air Cocaïne. Bruno Audos et Pascal Fauré ont quitté libre le palais de justice d'Aix-en-Provence hier soir. L'épilogue d'une affaire qui avait débuté en mars 2013 avec la saisie de 26 valises contenant 700 kilos de cocaïne sur le tarmac de l'aéroport de Punta Cana en République dominicaine.
La suite de votre journal, Agnès Soubiran. Les troupes américaines auront quitté l'Afghanistan le 31 août prochain.
Avec 11 jours d'avance sur le calendrier initial et alors que le président afghan estime que son pays traverse l'une des étapes les plus compliquées de sa transition avec des attaques de plus en plus nombreuses des talibans. Mais pour Joe Biden, il était temps de mettre un terme à la plus longue guerre jamais menée par les Américains. Correspondant signé Louis Louris.
Il est temps de mettre un terme à la guerre sans fin en Afghanistan. L'expression avait été employée en avril par Joe Biden. Hier, le président américain a confirmé le retrait de ses troupes d'un conflit débuté il y a 20 ans. Les objectifs, dit-il, ont été remplis. On a eu les terroristes du 11 septembre et empêché l'Afghanistan de devenir une base arrière pour de futures attaques. Discours solennel mais sans triomphalisme car le conflit se poursuit entre les talibans et Kaboul, même si Joe Biden écarte l'idée d'une victoire inévitable des insurgés. Il y a 300 000 soldats afghans bien équipés, aussi bien que n'importe quelle armée dans le monde, et en face, quelque chose comme 75 000 talibans. Ça n'est pas inévitable. Les Afghans, assurent-ils, continueront par ailleurs de bénéficier de notre soutien, mais c'est à eux de prendre leur destin en main. Nous n'y sommes pas allés pour créer un pays de toutes pièces, et c'est le droit, la responsabilité des Afghans seuls de décider de leur futur et de la façon dont ils veulent diriger leur pays. Comment exactement l'avenir le dira, mais Joe Biden estime hautement invraisemblable de voir émerger un gouvernement uni en Afghanistan. New York, Loïc Loury, France Inter.
L'assassinat du président haïtien, les autorités affirment que le groupe qui a attaqué Jovenel Moïse était composé de 26 Colombiens, en majorité des militaires à la retraite, et de deux Américains d'origine haïtienne. Plusieurs suspects auraient été arrêtés alors qu'ils avaient tenté de trouver refuge au sein de l'ambassade de Taïwan à Port-au-Prince. D'autres sont toujours en fuite. L'enquête n'a pas encore établi les motifs de cet assassinat qui plonge un peu plus le pays dans le chaos et la pauvreté. Enfin, c'est le premier grand week-end officiel de départ en vacances. La journée est classée rouge en Ile-de-France, orange dans le reste du pays. Demain, ce sera rouge partout, particulièrement bien sûr en direction du sud de la France et des régions côtières. Et pour ceux qui ne partiront pas cet été, un enfant sur trois ne part pas en vacances. Le Secours Populaire de Bretagne organise des journées à la plage. Et hier, c'était à Saint-Malo, une journée pleine de découvertes pour les enfants. Lucie Amadieu.
Assis en rond sur la plage, les enfants creusent dans le sable quand tout à coup...
Oh, il y a quelque chose! Arrêtez, une bête, là! On dirait une tortue!
C'est un bébé crabe.
On a trouvé un crabe, crabouillé.
Aline et sa sœur viennent pour la deuxième fois à Saint-Malo. La mer leur fait toujours envie.
Moi, j'aime bien me plonger dans l'eau.
Moi aussi, j'aime pas quand il est froid, mais moi, j'aime bien quand il est chaud.
Et alors là, elle est comment ?
Froide !
Du coup, tu vas pas y aller ?
Vas-y !
Jeannette visite Saint-Malo pour la première fois. Elle est venue de Lorient avec sa sœur et sa petite fille âgée de 7 mois. Et
elle est très contente. Elle la regarde partout. Elle est émerveillée. Elle sourit beaucoup. Ça fait que du bien. Même pour nous, de changer un peu, de bouger, ça fait du bien.
Cette journée de vacances est souvent synonyme de première fois. Un moment toujours émouvant pour Daniel Renard, le secrétaire général du comité de Saint-Malo.
C'était la première fois qu'il prenait le train, par exemple. C'est important pour des enfants de 7-8 ans. Une balade en train, c'est extraordinaire quand même. Certains découvrent la mer aussi. Hein.
Les plages, les remparts, l'intramuros, les 330 personnes amenées par le Secours Populaire ont eu quartier libre pour visiter Saint-Malo.
Le reportage de Lucie Amadieu de France Bleu Armorique, le Secours Populaire qui permet chaque année à des dizaines de milliers d'enfants et à leurs parents de partir au moins un jour en vacances.
C'était le journal d'Agnès Soubir. Grand merci à vous. À 7h15, il y aura le Zoom de la rédaction aujourd'hui en Corse autour de la plus grande enquête anti-mafia.